La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Claude Simon est un survivant. Survivant à un frère dont il hérite du prénom, survivant à son père qui meurt dans les tranchées, puis à sa mère disparue d'un cancer alors qu'il n'a que 12 ans, survivant à son bataillon totalement décimé durant la drôle de guerre, et enfin survivant après la mort de sa femme qui se donnera la mort. Et pourtant, pour cet écrivain mélancolique, rien ne peut épuiser la somptueuse magnificence du monde. Cette vie de Claude Simon, prix Nobel 1985 de littérature, Mireille Kallgruber nous l'a raconté hier, tandis que demain, avec Dominique Viard, nous nous pencherons sur la question de l'autobiographie et de la mémoire, avant de terminer jeudi avec Guy Scarpetta, en évoquant le retour de Simon à la narration et au personnage à travers ses romans L'Acacia, ainsi que Les Géorgiques. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour un panorama de l'œuvre de Claude Simon, nous sommes avec le professeur de littérature Alastair Duncan. Il a enseigné dans les universités de Reading, en Haute-Bretagne également, puis il a fait sa carrière à l'université de Stirling, en Écosse. Il a aussi été professeur invité à Perpignan, la ville où Claude Simon a passé son enfance et que l'on retrouve notamment dans son dernier roman, Le Tramway, publié en 2001. Alastair Duncan est enfin éditeur de l'œuvre de Simon dans la Pléiade, dont il a rédigé l'introduction. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Et d'abord, il ne vit que de vagues tâches, constituées d'objets de toutes sortes, selon l'angle aussi les distances entre eux diminuant ou s'élargissant, éparpillées en désordre autour du cheval, sans doute le chargement de la charrette qu'il avait traînée, mais on ne voyait pas de charrette, peut-être les gens s'y étaient-ils attelés eux-mêmes, et avaient-ils continué ainsi, Georges se demandant comment la guerre répandait. Puis il vit la valise éventrée, laissant échapper comme des tripes, des intestins d'étoffe. Cette invraisemblable quantité de linge, le plus souvent noirs et blancs. Il y en avait pourtant un d'un rose passé projeté sur ou accroché par la haie d'aubépine, comme si on l'avait mis là à sécher.
Un extrait de La Route des Flandres, lu par Michel Bouquet. Bonjour Alastair Duncan.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venu spécialement pour nous depuis Stirling, en Écosse, où vous résidez. Alors, on vient d'entendre un très court extrait de ce célèbre livre de Claude Simon, La Route des Flandres, dans lequel l'écrivain tente de restituer une mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On va en parler. Mais rien que dans ces quelques lignes qu'on a entendues, si on n'est pas tout à fait attentif, on peut être un peu confondu, disons, un peu perdu par la prose de Claude Simon. Comment, selon vous, faut-il lire ce genre de littérature?
Il faut avoir deux façons de lire. D'abord, se laisser porter par la phrase. Donc, ne pas trop hésiter à aller plus loin, parce que il va revenir. C'est-à-dire que la parenthèse va se fermer, on va pouvoir lire plus loin, rejoindre le flot de sa parole. Et d'autre part, il faut peut-être lire, en même temps, être prêt à lire assez lentement pour, par exemple, quand on vient de l'entendre, quand on entend Claude Simon à haute voix, on a vraiment l'impression de comprendre mieux que quelquefois de lire Claude Simon.
Ça dépend, il faut lire lentement, mais il ne faut pas lire trop lentement non plus, parce que comme la phrase est longue, si on veut la saisir dans son entier, il faut
Il faut l'embrasser. Ces deux façons de lire, de ne pas se laisser trop capter par des détails, mais en même temps, jouir des détails, parce que c'est ça qu'il fait lui. Sa façon d'écrire était de décrire d'abord tout un paragraphe, et puis par la suite, peut-être le lendemain ou quelques heures plus tard, de revenir sur ce paragraphe et d'injecter des parenthèses, d'ajouter des choses qui lui seraient arrivées à l'esprit.
Vous dites qu'il faut jouir de cette littérature, et c'est vrai que c'est un plaisir presque sensoriel, disons,
oui.
Un plaisir de la vision, un plaisir aussi de la méditation, des réminiscences. C'est tout ça à la fois le plaisir de la lecture de Claude Simon.
Oui, tout à fait. C'est une lecture, il faut une lecture sensorielle, sensuelle presque, pour se laisser entraîner par la lecture. C'est pas tout à fait vrai pour tous ces romans. Il y a des romans, les romans formalistes des années 70, où il y a des phrases plus courtes. Construite de façon plus classique. Et puis, dans la dernière partie de son œuvre, l'Acacia, le tramway, il y a une variété de phrases. Il y a des phrases longues, du genre dont nous avons parlé, mais aussi des phrases courtes, classiques.
Alors, il faut faire confiance à Claude Simon qui, quand il se lance dans une phrase, la termine d'une façon qui est syntaxiquement correcte, qui est syntaxiquement parfaite, mais en même temps, il pousse
presque
la syntaxe,
toujours.
Il
presque
pousse la syntaxe à un point qui est presque un point de rupture.
Oui, c'est ça. Et c'est ça, je crois, qui a été pour des écrivains, pour un certain nombre d'écrivains par la suite, a été une sorte de libération. Ils ont compris qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient faire qui n'étaient pas prévues dans la langue classique française.
Alors ça donne une impression un peu chaotique tout de même, mais précisément parce que l'un des grands sujets de Claude Simon, c'est la guerre, et que la guerre, c'est aussi le chaos. Est-ce que vous avez le sentiment, à Lester Duncan, que c'est précisément parce qu'on ne peut pas montrer autrement, enfin en tout cas c'est l'impression qu'il avait, le chaos, que son écriture ressemble à la première lecture bien entendu, à un chaos.
Oui, il y a certainement de ça, et il y a de ça certainement dans La Route des Flandres par exemple. Et c'est ça qui frappe dès qu'on aborde ce texte, cette sorte de chaos, de sensations, de perceptions, de souvenirs qui vous assaillent.
Oui. Alors par exemple, dans La Route des Flandres, qui raconte donc son expérience personnelle de la débâcle de 1940, vous dites que cette expérience est transmuée en une vision de dissolution universelle. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression de dissolution universelle, Alastair Duncan ?
C'est que il y a d'abord la dissolution de l'armée, mais à un certain moment, au début du texte, il parle aussi de la conception qu'on peut avoir du monde qui se dissout en même temps. Et ça je crois est important, c'est parce que comme vous avez dit au début, il y a une sorte de mélancolie. Dans plusieurs sens chez Claude Simon, mais une sorte de mélancolie, surtout dans les romans des années 60, où il y a une sorte de pessimisme à l'égard de l'histoire. Tout est soumis au travail destructeur du temps. Ce qui fait que tout s'en va, tout l'ordre s'en va. Et c'est ça, en fait, qui est bouleversant à la première lecture de La Route des Flandres. On a l'impression que rien n'est stable.
C'est ce chaos dont je parlais aussi tout à l'heure.
Oui, mais en même temps, et vous l'avez aussi proposé, que par la suite, on se rend compte qu'il y a un certain ordre dans ce chaos. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, qu'on voit qu'il y a des thèmes qui reviennent. Il y a un ordre qui s'établit même dans le chaos.
Donc c'est ça le projet de Claude Simon, c'est de retrouver de l'ordre, c'est-à-dire une espèce de sérénité dans un monde qui, de toute évidence, n'en a pas.
Sérénité, je n'irai pas jusque-là.
Une sorte de sérénité.
Une sorte de sérénité, peut-être. Ce qui est vrai, c'est que dans les derniers romans, il y a un changement de temps. Je dirais même après la Route des Flandres, il y a un changement de temps. Dans l'histoire, déjà, tout est un peu plus serein. Mais par exemple, si on prend le thème de la guerre, dans la Route des Flandres, la guerre, c'est le chaos. Mmh. Et Georges, dont nous avons entendu parler, Georges n'arrive pas à maîtriser ce chaos. Georges, il est à la fois il et je. Et donc, et il passe entre les deux.
Il est comme éclaté partout dans la scène qu'il raconte.
Absolument. Tandis que la guerre dans l'Acacia est tout à fait autre chose. Parce que le personnage principal, qui là aussi est encore plus, représente Claude Simon, survit à la guerre. Et même la guerre la transforme. Il passe par une initiation, par la guerre. Et à ce moment-là, comme vous le savez, à la fin du roman, il passe d'être un apprenti cubiste, donc parce qu'il voulait être peintre, à un écrivain en puissance. Et cet écrivain, c'est l'écrivain qui aura, en fin de compte, le prix Nobel.
Mmh. Et donc,
voici, on voit qu'il y a tout de même une certaine sérénité qui arrive dans les derniers romans.
Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de l'œuvre de Claude Simon avec Alastair Duncan. Alors de roman en roman, tout de même, Claude Simon revient encore et toujours à la même matière, même s'il retrouve une nouvelle façon de dire, à chaque fois un petit peu différente, mais on retrouve un certain nombre de traits communs. On va en prendre quelques-uns. Le premier qui semble évident, c'est le thème de la compassion. Il y a un rapport de Claude Simon avec les choses, les gens et aussi les animaux, oui, qui est vraiment de l'ordre de l'empathie, Alastair Duncan.
Oui, absolument. Et c'est ce qu'avait fait ressortir le comité du prix Nobel, qui a parlé de la compassion de Claude Simon. Et ce n'était pas un thème dont on parlait beaucoup en France à l'époque. Mais c'est certainement vrai, et comme vous le dites, pour les soldats, par exemple, les soldats ordinaires lors de la débâcle, ou alors pour les animaux et surtout pour les chevaux.
Oui.
Et donc il y a une sorte de mise en parallèle entre chevaux et hommes.
Qui risquaient leur vie ensemble sur la route des Flandres.
Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, vous faites bien de faire ressortir la compassion. Nous avons assez récemment, lors d'une réunion de l'association des lecteurs de Claude Simon, nous avons discuté un passage de la bataille de Pharsale. C'est le passage sur le guerrier, où justement cette compassion ressort énormément.
On peut dire également, parmi les invariants d'un livre à l'autre, qu'il y a un rapport à l'autobiographie qui est important, peut-être qu'on en parlera davantage demain, et puis un rapport à la géographie. On peut dire que de livre en livre, l'univers de Claude Simon développe une géographie qui est souvent la même, autour des Flandres, de Barcelone et de Perpignan, le pôle un petit peu méditerranéen. Quel vous semble être le rapport de Claude Simon avec le territoire, avec la géographie, Alastair Duncan?
C'est vrai qu'il est très attaché au paysage. Et donc, par exemple, dans Triptyque, il prend trois scènes, trois paysages différents. Et il est décrit dans le détail. Et je crois que ça fait partie de son attachement à la terre. Mmh. Et il relie toujours la géographie à l'histoire. Barcelone, l'Espagne, c'est un pays de révolution, de désespoir, de désillusion. Tandis que la Flandre, c'est là où les jeunes gens sont renvoyés pour mourir. Alors, il y a certains thèmes qui s'attachent à certains pays.
Et puis le paysage, c'est un tableau aussi qu'on peut regarder. C'est la fameuse somptueuse magnificence du monde. Hein. C'est une citation de Claude Simon de son deuxième roman, La corde raide. C'est vraiment l'écrivain du regard et l'écrivain de la présence au monde. Le plaisir sensuel qu'il prend aussi à écrire et qu'on prend à le lire, c'est justement ce plaisir de s'asseoir quelque part dans un paysage et de le regarder.
Oui, et pas simplement regarder, mais aussi entendre et sentir. Parce qu'il y a de ça aussi. C'est tous les sens qui sont avivés par Claude Simon.
Bien, la route des Flandres, le récit se met tout le temps en question lui-même, étant donné que ce sont deux prisonniers, Blum et Georges, qui ont été dans le même régiment et qui s'interrogent sur les raisons qui ont pu pousser ce capitaine qui était, j'en ai fait un capitaine, c'était mon colonel, à quelque chose qui était en fait un suicide. Et on élabore plusieurs versions de ce suicide, de cette mort, en échafaudant des hypothèses qui se contrarient toutes. Il y a tellement un côté mise en question que toute la fin de la route des Flandres, si vous vous rappelez, c'est Georges, le principal personnage, qui suit le capitaine, qui lui-même marche vers la mort, mais tout le temps, il est dans un tel état, l'état de demi-conscience, de fatigue, qui se demande, mais comment, il met lui-même en doute ses perceptions, mais comment était-ce, comment savoir. Voilà, si vous voulez, résumer d'une façon très succincte, très, très grossière, ce que l'on pourrait mener en commun au nouveau roman, c'est-à-dire une interrogation et non pas une affirmation.
Extrait d'un entretien de Claude Simon avec Viviane Forrester. Comment était-ce, comment savoir, cette dernière phrase de La route des Flandres, vous expliquez à la Stan Duncan que ça pourrait être l'exergue de tous les romans de Claude Simon. C'est ça qu'il cherche à faire, essayer de voir, de comprendre.
Oui, et c'est sûr que pour lui, c'était le résumé de son œuvre. Comment savoir? Que savoir. N'empêche que, avec le temps, ce thème a un peu tendance à disparaître dans la nature et que lorsqu'il parle de soi dans l'acacia ou dans le jardin des plantes ou dans le tramway, c'est toujours par fragments. Mais il a une certaine connaissance de soi. Donc c'est la première grande partie de son œuvre où ce thème de comment savoir, que savoir, domine.
Alors comment a été reçue finalement l'œuvre de Claude Simon? Parce que évidemment, l'attribution du prix Nobel a un petit peu changé la manière dont on l'a perçu, mais d'abord en France, il n'a pas forcément été bien compris, sans doute à cause de son rattachement au nouveau roman, dont vous expliquez très bien dans votre introduction que ça a pu effrayer le lecteur, finalement, cette étiquette du nouveau roman. Est-ce que c'est pas finalement à l'étranger, vous qui êtes écossais, vous pouvez nous en parler aussi de ce point de vue-là, mais peut-être du côté de la Suisse aussi, je ne sais pas, qu'on a vraiment bien compris Claude Simon dans un premier temps?
Dans un premier temps, il faut penser que dans les années 60 et 70, les universitaires étrangers cherchaient des thèmes pour leurs étudiants, et le nouveau roman se proposait comme thème. Donc, il y avait des jeunes comme moi à l'époque qui s'intéressaient au roman français contemporain et qui ont étudié les nouveaux romanciers. Et nous avons transmis ça à nos étudiants. Donc, je ne dirais pas que Claude Simon a eu un écho énorme dans la population, mais dans les universités, il a eu beaucoup d'enthousiasme. Et nous étions plusieurs en Grande-Bretagne, beaucoup aussi aux États-Unis, en Australie, et en Allemagne aussi, en Allemagne et bien sûr en Norvège.
Et puis peut-être que aussi la France a récupéré un petit peu ce patrimoine simonien au fur et à mesure, donc après le prix Nobel, je l'ai dit, et aussi parce que son œuvre s'est faite davantage autobiographique. Or en France, ça a, comment dirais-je, eu un écho plus grand par rapport à ce que d'autres écrivains à cette époque-là produisaient dans la manière de se raconter, etc., etc. Est-ce que cette histoire-là, elle est pour vous importante aussi ?
Oui, c'était aussi dans l'air du temps. On revenait au référent, à l'autobiographique. Donc on en parlait beaucoup. Et puis avec les Géorgiques, en 81, qui a été traduit en suédois, et c'est par les Géorgiques qu'il a eu le prix Nobel.
Est-ce qu'il est bien traduit en anglais, par exemple ?
Les Géorgiques, oui.
Enfin, globalement, l'œuvre de Claude Simon, parce que c'est une langue quand même très particulière, avec une syntaxe, justement, qui ne doit pas être si simple à retrouver dans une autre langue.
Mais il faut penser que Simon a beaucoup appris de Faulkner. Faulkner, donc on avait l'habitude de lire Faulkner en anglais. Alors retraduire Simon en anglais pose peut-être moins de problèmes que peut-être dans d'autres langues.
Le Faulkner du bruit et la fureur, par exemple, qu'est-ce qui fait écho entre les deux écrivains ?
C'est plutôt Absalon, qui ressemble par certains côtés à la route des Flandres, avec cette tentative de restituer le passé qui est entrepris par Georges et Blum, comme disait Claude Simon tout à l'heure, avec sa grande voix basse. Et donc ça, vous avez aussi dans Absalon, avec la tentative de Shrive et de, je ne sais plus comment il s'appelle, de reconstituer le passé.
Il ne s'agit pas pour un romancier, enfin du moins pour moi et je crois pour personne, de recréer le passé, mais de produire quelque chose. Moi, je m'aperçois de plus en plus de ça, encore dans le vent, n'est-ce pas ? Je pensais qu'écrire un roman, c'était imaginer comme ça une histoire, comme on m'avait appris à dans une narration au collège, et puis qu'ensuite on l'écrivait avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite. Alors je me suis aperçu de quelque chose, c'est que une fois que j'avais fini d'écrire des bouquins comme ça, que j'avais soigneusement imaginé à l'avance, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. C'était autre chose qui s'était fait. Et au contraire de, comme on entend les gens dire, ah, si je pouvais faire ce que je voudrais faire, mais les mots me trahissent, ou etc. Ben moi, c'était le contraire. Ce qui s'était fait, c'était beaucoup mieux que ce que j'avais voulu faire.
Les mots ne vous trahissent pas, vous ?
Non, au contraire, ils m'apportent tout. N'est-ce pas ? L'écriture, l'exercice de l'écriture, l'acte d'écrire m'apporte tout. Alors, ça me trahit, si vous voulez, en sens que, à la fin, il ne sort pas du tout ce que j'avais voulu faire. Mais si je regarde mes premiers projets, si je comparais souvent les premiers projets avec ce qui s'était fait, je n'ose même pas dire ce que j'avais fait, ce qui s'était fait, bien entendu, avec mon travail, c'était beaucoup mieux. Alors, à la fin, ma foi, j'ai fini par me dire c'est plus la peine de vouloir faire quelque chose puisque ce qui se fait, c'est mieux.
La la compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous, Alastair Duncan, de ce que vient de dire Claude Simon en archive?
Je crois que c'est très vrai ce qu'il dit. Dans Le Vent encore, il avait constitué un scénario.
Donc son premier roman qu'il revendique pleinement.
Oui. Et malgré ce qui est arrivé dans ce roman, on trouve toujours le scénario, l'idiot qui arrive dans une ville qui ne le veut pas.
Il reçoit un héritage.
Il reçoit un héritage et qui, en fin de compte, l'expulse. Donc, et ça, c'est un peu le tragique de l'histoire. Tandis que, quand il a commencé à écrire L'Herbe, c'est-à-dire le roman qui a suivi, Le Vent, paru en 57, L'Herbe en 58. Donc, au moment où il a commencé à rédiger L'Herbe, il avait également un scénario. Mais c'est là pour la première fois qu'il a abandonné en cours de route ce qu'il avait pensé faire et que... Il y a une liste de personnages dont on n'entend jamais parler. Et il y avait une sorte d'intrigue concernant le personnage principal qui ne s'est pas fait. Et peu à peu, en travaillant, Claude Simon est arrivé à se rendre compte que il pouvait travailler et retravailler les mêmes scènes pour aller plus loin et créer une sorte de roman en spirale. Et ça, c'était la première fois qu'il a vraiment expérimenté de cette façon-là.
Est-ce que c'est déjà à ce moment-là, au moment de L'Herbe, qu'il inaugure cette manière de mettre des couleurs sur les plans de ses romans parce que comme il y a un travail de montage aussi chez Claude Simon, qui n'écrit pas forcément dans la continuité, mais qui fait voilà un travail de montage entre les différents fragments, afin que les diverses histoires, si l'on peut dire, se retrouvent de manière uniforme tout au long du roman, il leur attribue à chacun une couleur. Et on voit ces manuscrits, qui sont d'ailleurs très beaux picturalement, on saisit d'un seul coup d'œil, en fait, l'occurrence de tel ou tel personnage, par exemple. Est-ce que c'est dès ce moment-là?
Non, pas à ma connaissance, avec L'Herbe. C'est avec La Route des Flandres que ça a vraiment commencé en 60. Et puis, il y a des manuscrits d'histoire. Je crois qu'il y a seulement c'est peut-être le dernier chapitre d'histoire où il a fait la même chose. Il a travaillé avec des couleurs. Parce qu'il voulait toujours... Il y avait une tentative de simultanéisme chez lui. Donc, il combattait toujours l'ordre chronologique. Il voulait que tout revienne à chaque instant. Oui. Et que des choses qui paraissaient dans son roman seraient par la suite toujours là en filigrane. Donc, pour faire cela...
Parce que la conscience travaille comme ça. Ou l'inconscient d'ailleurs, je ne sais pas.
Oui, mais là, vous êtes dans une esthétique réaliste qui a été l'esthétique de Simon au début de sa carrière. Et jusque dans les années, au milieu des années 60, il a continué à défendre son œuvre d'un point de vue réaliste. Ça, par exemple, quand on voit la fin de l'Acacia, et à la fin de l'Acacia, il y a l'écrivain qui commence à écrire avec l'ambition de copier mm-hmm. avec le plus d'exactitude possible des feuilles d'un rameau, une touffe d'herbe, un roseau, des cailloux.
Donc du réalisme pur d'une certaine manière.
Oui, un réalisme pur. Donc rejetant tout ce qu'il avait appris en tant qu'apprenti cubiste. Oui. Et cette ambition-là, il a mis les quatre premières œuvres à trouver un moyen de réaliser cette ambition. Parce que copier, ça peut faire pour... On peut faire ça pour un paragraphe, mais comment construire un roman à partir de ça? Donc, il a dû se défaire de tous les artifices, de tous les trucages du roman conventionnel, pour arriver à un réalisme qui lui convenait. Et c'est ça, si vous voulez bien, je vous lirai un petit passage.
Peut-être très rapidement, si vous l'avez vraiment sous la main.
Bon. C'est le début du vent, où il annonce dans une sorte d'art poétique ce qu'il va faire par la suite dans les romans qui suivent. Donc je lirai un tout petit passage.
Allez-y.
Et maintenant que tout est fini, tentez de rapporter, de reconstituer ce qui s'est passé. C'est un peu comme si on essayait de recoller les débris dispersés, incomplets, d'un miroir, s'efforçant maladroitement de les réajuster, n'obtenant qu'un résultat incohérent, dérisoire, idiot, ou peut-être seul notre esprit, ou plutôt notre orgueil, nous enjoint, sous peine de folie et en dépit de toute évidence, de trouver à tout prix une suite logique de causes et d'effets, là où tout ce que la raison parvient à voir, c'est cette errance, nous-mêmes ballottés de droite et de gauche, comme un bouchon à la dérive, sans direction, sans vue, essayant seulement de surnager, et souffrant, et mourant pour finir, et c'est tout.
Il y a cette idée qu'il ne faut pas non plus trouver de cohérence à la vie, parce que la vie n'est pas cohérente, elle est aussi très fragmentaire. On reviendra peut-être sur cette idée dans la seconde partie de cette émission Alastair Duncan, juste après la chronique d'Étienne de Montetti.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Étienne de Montetti, directeur du Figaro Littéraire. Bonjour Étienne.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être là. Vous venez nous parler aujourd'hui du dernier roman d'Andrei Makine, Au-delà des frontières, paru à la rentrée de janvier aux éditions Grasset.
Oui, la littérature peut-elle tout dire? C'est la grande question, depuis Rabelais, Sade, Baudelaire ou même Houellebecq. Et c'est celle que pose Andrei Makine, prix Goncourt pour le Testament français, avec son dernier roman, qui a pour titre Au-delà des frontières. C'est un roman, et même un roman à tiroir, qu'on en juge. On y trouve les premières pages d'un manuscrit intitulé Le Grand Déplacement, un texte brut, violent même, traversé par toutes les hantises de la société contemporaine en France. Citons pêle-mêle l'immigration, le terrorisme, la guerre civile. Bref, le récit halluciné d'une France que son auteur imagine en plein chaos dans une vingtaine d'années. Et ce roman, nous dit Makine, est signé d'un certain Vivien de Linden, et les lecteurs ne pourront lire que des extraits, ce que le narrateur mettra sous ses yeux. Le narrateur est embarrassé. Que faire? Quel éditeur serait assez audacieux, assez casse-cou, pour publier ce roman qui offense la morale commune? Certains diront le politiquement correct. Il va donc soumettre le brûlot à un de ses amis, l'écrivain Gabriel Osmonde, qui est un écrivain philosophe, et également prendre contact avec l'expéditeur de ce manuscrit, qui est la mère de l'auteur, afin d'en percer le mystère et comprendre ce que cache cette rage. Il ne sera pas déçu. Cette femme, qui s'appelle Gaïa de Linden, va décrire son fils comme une sorte d'ange exterminateur, fou de pureté comme on peut l'être à l'adolescence, et qui regarde la vie et le monde comme un cloaque. Gaïa, elle, est le produit d'une génération, celle de l'action humanitaire, avec sa noblesse et ses chimères, mais il est probable que son existence pleine de désillusions a constitué pour son fils Vivien le plus efficace des antidotes, jusqu'à la dérive et en réalité jusqu'à la folie.
C'est donc un roman intrinsèquement complexe.
Oui, complexe, parce que Makine mêle avec brio plusieurs styles, la satire sociale, notamment sur le monde de l'édition, le roman initiatique et le roman philosophique. Les voix se succèdent et Makine en profite pour empiler les masques. Et ça nous oblige à poser cette question, qui parle dans ce récit? Est-ce le narrateur, appelons-le Makine, homme raisonnable et apaisant? Est-ce Gabriel Osmonde, qui est un pseudonyme sous lequel Makine signa plusieurs romans échevelés et même érotiques il y a 10 ans? Ou est-ce Vivien de Linden, le jeune écrivain apocalyptique, chacun ayant son univers, sa particularité? Et le lecteur est donc saisi et captivé de ces trois voix très distinctes. Laquelle faut-il écouter ?
En réalité, c'est peut-être tout simplement une autre question que ce livre pose au lecteur, Étienne.
Oui, Mathieu, et cette question, c'est celle-ci. Jusqu'où une société permet-elle à un écrivain, qu'il s'appelle Makin, qu'il s'appelle Osmond ou qu'il s'appelle Linden, d'ouvrir les vannes de ses peurs, de ses fantasmes, de libérer des dérives, des fantasmes idéologiques et sexuels, sans qu'il lui soit reproché de pervertir, de salir, de provoquer? Bref, peut-on tout écrire aujourd'hui sans ébranler une société qu'on sait fragile? Si la littérature a l'ambition d'explorer la face obscure, inquiétante de l'âme humaine, de mettre à la lumière les démons d'une société, notre époque est-elle de taille à accepter une prose qui dérange, une prose qui agisse comme un révélateur et non pas comme une menace? Et Makin, dont on connaît le talent, se joue de ce défi avec une parfaite maîtrise. Sa plume ne faiblit jamais et je crois que le lecteur est proprement captivé.
Voilà un bon roman pour réfléchir sur la littérature. Au-delà des frontières paraît donc aux éditions Grasset. Merci beaucoup Étienne de Montetti. Tout cela et bien davantage à retrouver évidemment dans les colonnes du Figaro littéraire, notre partenaire. La Compagnie des auteurs, c'est sur France Culture. Nous en sommes au deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivain Claude Simon, prix Nobel français de littérature en 1985, et auteur notamment de La bataille de Farsal, dont voici un extrait, lu ici par Michel Bouquet.
Jaune, et puis noir. Tant d'un battement de paupières. Et puis jaune de nouveau. Ailes déployées, forme d'arbalète rapide entre le soleil et l'œil, ténèbres un instant sur le visage comme un velours, une main un instant. Ténèbres, puis lumière, ou plutôt remémoration. Avertissement. Rappel des ténèbres, jaillissant de bas en haut à une foudroyante rapidité palpable, c'est-à-dire successivement, le menton, la bouche, le nez, le front, pouvant les sentir, et même olfactivement, leur odeur moisie de caveaux, de tombeaux, comme une poignée de terre noire.
Quel vous semble être précisément le rôle de la description qui semble si important chez Claude Simon à Alastair Duncan ?
Oui, il est venu à la description. Après avoir passé par cette étape d'esthétique réaliste, où il a tenté de reconstituer le
passé. Restituer, c'est un mot qui revient très souvent dans sa bouche.
Oui, par exemple, dans le sous-titre du Vent, tentative restitution. De restitution d'un retable baroque. Oui. Mais ayant abandonné cette esthétique, il a, comme il l'a dit dans un autre extrait, il a compris que ce qu'il faisait, c'est qu'il créait en travaillant, qu'il produisait en travaillant.
Est-ce que c'est de l'écriture automatique pour autant ?
Ah non, absolument pas. Mais sa façon, parce que justement, donc il travaillait tout le temps, et donc il travaillait de façon centrée, donc avec des thèmes sur lesquels il revenait à chaque fois. Mais pour revenir à la description, la description était le point de départ. On voit ça dans Le Palace, par exemple, et aussi dans l'extrait qu'on vient de lire. C'est-à-dire que il a trouvé que c'est une façon plus qualitative de travailler que de travailler avec une intrigue qu'il trouvait artificielle. La description, il disait, on peut aller à tout en partant de la description d'un crayon. Parce que dès qu'on décrit un crayon, on décrit un certain nombre de qualités qui vous ramènent plus loin à d'autres choses. Les qualités, la couleur d'un crayon, la taille d'un crayon,
à qui il a appartenu aussi peut-être,
d'un crayon, tout ça vous mène très très loin. Donc il se fiait aux mots, mais aux mots à partir de la description.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'un suspense de la description? Est-ce qu'il y a du suspense dans les romans de Claude Simon?
Oui, mais très souvent c'est lié à ce qu'il faudrait tout de même appeler des intrigues.
Donc on retrouve quand même la bonne vieille intrigue quelque part.
Oui, on retrouve dans les géorgiques, il y a un suspense, on ne sait pas, il y a des mystères à propos de ce qui... Pourquoi la mère ou la grand-mère a tenu secret beaucoup de choses sur l'ancêtre? C'est parce que il avait voté la mort du roi. Ah. Et donc, pour une bonne famille bourgeoise, voter la mort du roi était un scandale.
Oui, évidemment, il ne faut pas faire ça. Alors, il y a aussi dans l'idée de la description, et tout à l'heure vous avez mentionné le palace, qui est une description qui part d'une photographie. Et parfois, Claude Simon, même souvent, décrit des tableaux. Dans la bataille de Farsale, par exemple, il décrit des tableaux de Piero della Francesca. Donc ça, cette manière d'intégrer les arts plastiques et d'intégrer les images, pas forcément d'ailleurs des images d'art, hein, en l'occurrence ça peut être des photos qui ne sont
des
pas...
Des publicités aussi.
Ou des publicités. Oui. Voilà, en quoi c'est important ça?
C'est important pour lui en partie parce qu'il avait commencé en peintre. Alors tout ce qui est visuel était important pour lui, mais il y avait aussi un thème, surtout dans les années 70, le thème de tout mettre sur le même plan. Alors pour ça, il prenait des tableaux, des publicités, des images visuelles de toutes sortes qu'il incorporait dans son travail. Tout comme par la suite, il a incorporé des rapports de marche de certains nombres de régiments. Donc tout ça, c'était du pain sur la planche pour lui.
Oui. Il y a un côté pop art, du coup. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là? Dans la récupération, par exemple, de la publicité?
Un côté pop art, je ne crois pas que j'irai jusque-là.
Non, ça va trop loin.
Non.
Alors, à partir des années 80, vous l'avez un petit peu expliqué déjà à l'Aster Duncan, avec les géorgiques et avec l'acacia, il écrit ce qu'on pourrait appeler des œuvres de synthèse. Et là, c'est des romans qui reprennent la matière des romans précédents, et avant tout la matière familiale, mais avec, du coup, une emphase portée sur l'écriture biographique qui s'élabore de plus en plus près de l'auteur. Idem dans l'Acacia, ce qui ressort d'abord, c'est surtout que ce texte, c'est une hantise du temps, ça c'est une expression que je vous emprunte, que Mireille et Kyle Gruber appellent, elles, le grand temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur toutes ces questions-là, de ce palimpseste du temps qu'on retrouve, et qu'on retrouve de manière davantage autobiographique dans les romans de la fin, avec par exemple la juxtaposition des différentes époques dans l'Acacia.
La juxtaposition des différentes époques, c'est très important pour lui de revoir les mêmes scènes qui reviennent. Parce qu'il est plutôt convaincu de l'éternel retour plutôt que de l'histoire qui avance. Mm. Donc il était fermement convaincu que le progrès ne se fait pas. Et que, donc, mais c'était aussi une partie de son esthétique de voir toujours les comparaisons et les différences entre les époques. Et de plus en plus... il différencie entre les époques, mais en faisant ressortir les ressemblances. Par exemple, au début des géorgiques, il y a trois trois histoires dans les géorgiques. L'histoire du général LSM, donc un ancêtre à Claude Simon, sa propre histoire en tant que cavalier de l'an 40, et puis l'histoire de George Orwell, qui n'est pas nommé, mais qui est présent dans le texte, en Espagne en 36-37. Et dans le premier chapitre, aucun de ces personnages n'est nommé, mais tous, ils se réfèrent à tous comme « il ». Ouais. Alors, on voit tout de suite qu'il y a quand même confusion et différence. Et c'est peu à peu que les différences émergent.
Dans Le Jardin des Plantes, qui est un de ses derniers livres, enfin aussi un livre de la fin, on y lit l'histoire d'une relation entre un jeune homme naïf et un homme d'âge mûr. Donc il y a aussi cette confrontation entre deux générations, deux histoires, deux époques juxtaposées.
Oui, mais c'est très intéressant parce que là, la confrontation entre un jeune homme et un homme plus mûr, c'était une constante dans son œuvre. Ça reparaissait plusieurs fois dans son œuvre, mais peu à peu, Simon s'identifiait avec l'homme mûr. Et pendant très longtemps, il s'identifiait avec l'homme jeune, le naïf, celui qui était dilettante, mais on voit que dans la Cassia, il commence à mûrir, et au moment de cette confrontation entre l'homme mûr qui est maintenant prix Nobel et le jeune journaliste, notre sympathie est tout aux côtés de l'homme mûr.
Quand vous couriez dans cette tranchée de chemin de fer, comme vous l'avez raconté, ou quand vous vous escrimiez à faire sauter ce ruisseau par cette jument, et que ce que vous appelez des petites boules de coton sortaient par-ci par-là de ce pré, tout de même vous aviez peur, non ? J'ai dit non. Pas dans ces moments-là. Avec cette jument et ce ruisseau, c'était seulement bon Dieu de merde. Bon Dieu, pauvre idiote, tu vas te décider ou non ? Bon Dieu, je crois que ce qui à la fois m'exaspérait et me déprimait le plus, c'était le grotesque de la situation, le dérisoire. Être tué dans une position aussi ridicule, dans l'eau jusqu'à mi-mollet et en train de me battre avec une jument qui ne voulait pas... Il a dit, bon, mais le reste du temps...
Un extrait justement du Jardin des Plantes, Alastair Duncan, lu ici par Claude Riche. Qu'est-ce que vous entendez à la réécoute de ce court passage ?
Qu'il représentait très bien l'homme mûr, mais beaucoup moins bien l'homme jeune. Mmh. sa voix était la voix d'un homme mûr. Et donc j'ai trouvé ça très très bien.
Mais ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps dans la simultanéité des époques alors, puisque vous dites très bien que quand il était jeune, il était proche du personnage jeune, et plus âgé, il est proche du personnage âgé. Donc il y a bien une espèce de frise chronologique, c'est complètement anti-Claude Simon ça comme idée.
Pourquoi ?
Bah parce que lui il n'aimait pas la chronologie, il était dans l'idée que tout était simultané. Enfin bon, c'est vous qui savez, hein. C'est pas moi.
Non, il est tout à fait d'accord pour voir qu'il y avait une évolution dans son œuvre. Et cette évolution se faisait avec les années, et lui a changé avec les années, son œuvre a changé avec les années, et c'est un peu un des charmes de son œuvre, que justement, ça n'a jamais été la même chose. Ça a toujours évolué. Et même, ça m'a posé personnellement d'énormes problèmes parce que je n'arrivais pas à le suivre assez vite. Il avait toujours quelques longueurs d'avance sur ses critiques. Mais c'était passionnant.
Il y a une autre façon d'être en lien avec le passé, c'est la manière proustienne. Et Proust, avec Faulkner qu'on a cité tout à l'heure, c'est la grande référence de Claude Simon, et y compris dans ses derniers livres, Alastair Duncan, dans Le Tramway, par exemple, il y a quelque chose d'extrêmement proustien.
Oui, c'est vrai. Il y a une sorte de jeu entre Tramway et Combray. Mmh.
C'est son Combray, le Tramway ?
Pas exactement, mais c'est vrai que c'est son enfance. Mais une sorte de prise à partie de Proust dans le Tramway aussi. Donc,
de quelle façon ?
Est-ce que je me souviens exactement maintenant ? Mais il critique Proust. Il y a un moment où il dit « Est-ce que il faut être homosexuel pour être un grand romancier ?» Ce n'est pas exactement ça. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais il y a certainement un moment dans le Tramway où il prend ses distances avec Proust. Je crois que c'est peut-être sur le thème des coïncidences, si je me souviens bien.
Et il y a une Madeleine de Proust chez Simon. Ce serait quoi l'objet Madeleine quand il se remémore son passé, si ça existe ? Ou alors on est dans toute autre chose et cette question n'a pas lieu d'être, Alastair Duncan ?
Je crois qu'on peut peut-être penser à ce geste de son capitaine, comme il dit capitaine dans La Route des Flandres, qui tire son sabre au moment où un tireur embusqué tire sur lui. Et c'est une image qui revient dans beaucoup de ses romans. Et je peux peut-être vous lire un tout petit...
Bien sûr, allez-y.
Un tout petit peu du début de La Route des Flandres où il parle de ça pour la première fois.
Si vous l'avez sous la main, bien entendu.
Oui, oui. Un moment, j'ai pu le voir ainsi, le bras levé, brandissant cette arme inutile et dérisoire, dans un geste héréditaire de statue équestre que lui avaient probablement transmis des générations de sabreurs, silhouette obscure dans le contre-jour qui le décolorait, comme si son cheval et lui avaient été coulés tout ensemble dans une seule et même matière, un métal gris. Le soleil miroitant un instant sur la lame nue, puis le tout, homme, cheval et sabre, s'écroulant d'une pièce sur le côté, comme un cavalier de plomb, commençant à fendre par les pieds et s'inclinant, lentement d'abord, puis de plus en plus vite sur le flanc, disparaissant, le sabre toujours tenu à bout de bras derrière la carcasse de ce camion brûlé, effondré là, indécent comme un animal, une chienne pleine traînant son ventre par terre, les pneus crevés se consumant lentement, exhalant cette puanteur de caoutchouc cramé, la nauséeuse puanteur de la guerre suspendue dans l'éclatant après-midi de printemps, flottant, ou plutôt stagnant, visqueuse et transparente, mais aurait-on dit visible, comme une eau croupie, dans laquelle auraient baigné les maisons de briques rouges, les vergers, les haies. Un instant, l'éblouissant reflet de soleil accroché, ou plutôt condensé, comme s'il avait capté, attiré à lui, pour une fraction de seconde, toute la lumière et la gloire sur l'acier virginal.
Merci beaucoup, Alastair Duncan. Vous lisez merveilleusement Claude Simon. Je crois que vous nous le faites particulièrement bien entendre. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'université de Stirling en Écosse et que vous avez coédité les deux volumes de Pléiade de Claude Simon en 2006 et 2013. Vous avez notamment rédigé l'introduction à ces volumes. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurent Travagli-Chanal, Garance Mazelier et Jean-Guilain Meige. Demain, nous poursuivons notre exploration de l'œuvre de Simon avec Dominique Viard, qui parlera en particulier de nouveau de la question de la mémoire dans son œuvre. Une mémoire, qu'il qualifie d'inquiète. Tout de suite, c'est le retour de la poésie sur France Culture et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Je n'ai jamais voyagé. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Godot qui en fait son titre. Je n'ai jamais voyagé, poème chez Gallimard. Et l'un des poèmes dit « Le pain, le soir ». J'aurais passé ma vie à tourner autour de ma poésie, à la laisser gronder en moi comme un feu qui apaise. J'aurais été l'ombre projetée sur les murs de la caverne. J'aurais été cet homme à côté, pas vraiment là, incapable de se mettre à la bouche la braise des mots que couvait son silence, incapable de vous les dire, sauf dans des petits mots griffonnés le matin dans la cuisine pour vous donner le courage de vivre et le bonjour des humbles, sauf dans les éclats du rire dont je cachais mes pauvres nudités. J'aurais passé ma vie à avoir peur qu'on reconnaisse en moi cette lumière-là, des mots venus des nuits. Je n'ai jamais voyagé est aussi le titre d'un poème dédié à Patrick Quillier. Je n'ai jamais voyagé, jamais senti le souffle ailé de l'inconnu, mais par les poches trouées de ma veste, des pièces glissent, des pièces du monde entier comme une pluie tombant sur le pavé des nuits. Tu pourrais me raconter comment on dit le cri, la joie et la vie de l'autre côté, avec la langue épaisse de ceux qui ont gardé le souvenir des choses. Tiré d'un autre poème, à la page 33, où il est question de réparer le monde. Notre nuit, nous lui avons donné les couleurs d'une fête, pour mieux ne pas la voir. Dans la rue, un homme venu de loin fait son geste de l'oiseau pour nous dire qu'il nous aime. Il n'y a pas si longtemps, on aurait pu le trouver beau avec son visage de jeune homme qui ne regarde plus ce qu'il a dans les mains. Écoute le vent, le ciel remue. Un dieu sans doute cherche à nous parler de l'autre côté des arbres. Dans la vie basse où nous vivons, chacun de nous pas s'efface devant l'horizon. Il a lancé trois mots que la nuit avait mis dans sa bouche. Il croyait que leur visage pourrait une dernière fois s'ouvrir. On demandait aux enfants de prier un peu. Ils le faisaient sans qu'on le sache, en regardant les yeux évidés de leur père. J'interromps le poème et je remonte de page avant dans la partie « Qui est le vivant ?» Ville. Chansons urbaines, solubles dans la vitesse. Vertige des histoires et que surtout il ne reste rien de ces fragments de lutte, qu'elle se consume dans le mouvement qui ne l'amène nulle part, qu'aucune stèle vraiment ne vienne rappeler que la vie était partie nous attendre ailleurs. Et toi ? Il y a des jours où le monde s'échappe de tous les pores de ta peau. Tu marches dans une pensée sans fin et sans attache, une éternité où tu pourrais te perdre. Là, je peux voyager, pourquoi pas revenir à mon point de départ, le pain le soir. J'aurais passé ma vie à ne pas avoir suffisamment confiance dans la capacité des mots à tenir ma promesse, à ne pas savoir ce que cela veut dire que vivre à la hauteur de la lumière. J'aurais passé ma vie à bivouaquer dans les abords de l'espérance. J'aurais passé ma vie à vivre.
Merci Jacques Bonnafé. Vous nous lisez jusqu'à jeudi des textes d'Emmanuel Godot.